Je crois qu'il est indispensable de considérer cette alternative thérapeutique comme une alternative nécessitant une vraie collaboration aussi bien entre les ORL et les pneumologues, donc c'est eux qui vont assurer le suivi et qui assurent le dépistage de ces patients. Donc Valérie, donne-nous ton sentiment par rapport à ça.
On va demander de prendre l'avis du pneumologue. Vous allez voir, c'est presque pareil en fait. Je reprends rapidement en fait. Vous avez là une apnée obstructive, la langue est partie en arrière. Alors en fait, pourquoi ça se passe comme ça? C'est que le pharynx c'est quelque chose de mou, c'est pas encadré par une structure rigide. Et en fait, si on considère que c'est un tube mou, quand vous inspirez comme ça, bah, ça a tendance à aspirer l'intérieur et à faire partir les parois vers l'intérieur et au maximum à faire une apnée. Donc ça, ça se produirait chez l'ensemble de nous là dans la pièce si on n'avait pas une langue qui fait que à chaque inspiration, effectivement, cette langue va partir vers l'avant de manière active. Le professeur Chabol vous a parlé donc du principal muscle qui fait partir vers l'avant, donc dilatateur, hein, qui est le géniogloss, et que vous voyez ici en vert. Et ce que vous voyez aussi, c'est que la langue, c'est un ensemble de plein de muscles. Il y en a 8 paires. Enfin, 28, c'est ça? Non, moi j'en connais 8, mais en tout cas, beaucoup. Et que ça ne sert pas que à respirer, la langue, hein, ça c'est une nouveauté, ça sert aussi à parler, à déglutir, à manger. Et donc, toutes ces fonctions doivent être intégrées dans un même organe, et c'est pour ça qu'il y a un ensemble de muscles et qu'elle est capable de partir dans beaucoup de directions. Donc ça implique quoi? C'est effectivement, quand on respire, on utilise celui-là, et on utilise systématiquement tous les autres, et en fait, il y a toujours un équilibre pour la contraction de l'ensemble de ces muscles pour arriver à faire ce qu'on veut faire avec. Alors, pourquoi je précise ça? C'est parce qu'en fait, ça... C'est ce qui explique un petit peu la différence de philosophie, on va dire, entre les deux systèmes de stimulation, mais qui, de toute façon, ont à peu près quelque chose de similaire en termes d'efficacité. C'est que le nerf numéro 12 va innerver, en fait, pratiquement toute la langue, sauf un muscle, et donc va à la fois avoir une action en ouverture sur le géniogloss, mais peut aussi avoir une action en fermeture si, par exemple, il active ce muscle qui est le muscle géniogloss. Donc, c'est pour ça que quand on va poser un stimulateur, il va falloir veiller à ce que on ouvre les voies aériennes et qu'on ne les ferme pas. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait pensé à utiliser ça? Tout à l'heure, on a vu que les causes du syndrome d'apnée du sommeil avec le professeur Gagnon, il y avait essentiellement des causes anatomiques et la plus importante d'entre elles, c'est l'obésité. Puisque vous voyez que l'obésité, vous avez des voies aériennes normales ici, des voies aériennes d'obèses, et vous voyez que ces voies aériennes sont toutes petites. Et bien, effectivement, c'est quelque chose qui est très lié, l'anatomie et en particulier l'obésité, mais il y a 50% des patients qui n'ont pas de critères anatomiques, ou pas seulement un critère anatomique. Et chez un certain nombre de ces patients, en fait, ce qu'on peut voir, c'est une dysfonction des muscles ou des nerfs qui commandent les muscles qui vont ouvrir les voies aériennes supérieures. D'où l'idée, en fait, de stimuler ces muscles. Pourquoi ? Pour en fait reproduire ce qu'on voit pendant l'éveil. À l'éveil, personne ne fait l'apnée obstructive. Pourquoi ? Parce que même si on a des anomalies des muscles, même si on est obèse, même si on a une petite voie aérienne, on a un cerveau qui est là pour nous protéger pendant notre éveil et qui compense. Et donc, il y a des phénomènes de compensation au niveau du cerveau qui font qu'on maintient tout le temps ces voies aériennes ouvertes pendant l'éveil. Par contre, pendant le sommeil, on dort, le cerveau dort, il n'y a plus ce système de compensation. Et bien, la stimulation du 12, ça va reproduire en fait le système de compensation du cerveau pendant la journée, donc augmenter en fait la stimulation sur cette partie. Alors, pourquoi le nerf et pourquoi pas le muscle directement? En fait, donc les premières expériences qui avaient été menées, c'était directement sur le muscle. Et on avait posé donc des petits patchs, comme on fait pour rééduquer les abdominaux ou pour rééduquer les sportifs blessés. Mais c'était un échec, puisque il y avait une trop grande variabilité de mouvement de la langue et que ça réveillait le patient. Donc, d'où l'idée de faire quelque chose de totalement implanté et de développer. Donc, deux systèmes sont arrivés à maturation, on va dire, sans dans nos études à grands effectifs. Le premier, donc, je ne vais pas reprendre la différence entre les deux, mais il y en a un qui, effectivement, nécessite qu'on détecte l'inspiration, parce qu'il va reproduire ce qu'on fait à l'inspiration, c'est-à-dire pousser le géniogloss vers l'avant. Et l'autre, il se dit que tous les muscles sont interconnectés et que, finalement, si on rigidifie l'ensemble de manière continue, ça va permettre de garder l'ensemble ouvert et ça ne va pas fermer à l'inspiration. Quels sont les résultats? Donc, parce que maintenant, il y a des grands essais cliniques, et notamment avec le système Inspire, qui en est maintenant à 3 ans de suivi. Ici, c'est les résultats à court terme sur les 126 patients implantés dans la grande étude, et qui montrent que chez donc, des patients modérés à sévères, on a une réduction significative de l'index d'apnée hypopnée, donc qui passe ici de 32 en moyenne à 15 en moyenne, avec deux tiers de répondeurs, hein, donc qui ont une réduction significative de leur index d'apnée hypopnée, et parallèlement, une amélioration de leurs symptômes, puisque leur score de somnolence a été nettement réduit. Imtera est encore un petit peu plus loin en développement derrière, et pour l'instant, de publier, on a une étude pilote hein, qui concerne 14 patients, qui étaient, pareil, modérés sévères plutôt sévères. Donc vous avez leurs résultats individuels, et vous voyez que effectivement, sur ces 14 patients, il y en a un certain nombre qui étaient nettement répondeurs à 3 mois, avec des réductions d'index d'apnée hypopnée de à peu près 50%. Juste pour vous montrer un exemple, donc un patient qui a été implanté à la cavité salpêtrière avec le système Imtera pour vous montrer comment ça marche. Donc ici, vous avez un patient qui respire, qui ronfle et qui a un débit aérien qui est petit. Là, vous mettez en place la stimulation. Vous voyez ici que vous récupérez l'artefact de stimulation ici sur le menton. Et vous voyez qu'immédiatement, il s'arrête de ronfler et il récupère un débit aérien qui est beaucoup plus important.